pour dissimuler sa présence à l'intrus. On était venu me trouver pour m'avertir. L'accident s'était produit dans l'après-midi précédent. L'accident, l'événement, la découverte, on n'en savait rien encore. Il fallait que Sarah rappelle sa mère chez elle. Et c'était les mots « chez elle ». Pas à l'hôpital, pas Dieu sait où, mais chez elle, qui lui avait fait pressentir la tragédie. Elle s'était précipitée sur le téléphone. Je revois le cadran et ses mains hésiter, se tromper. Je me suis éclipsé. Je suis sorti, moi aussi, autant par bienséance que par lâcheté. Cette dernière journée, j'ai erré avec elle dans les bas-fonds de la justice iranienne, au bureau des passeports, royaume des pleurs et de l'iniquité, où des illégaux afghans aux vêtements maculés de ciment et de peinture, menottés et abattus, défilaient devant nous encadrés par des passes d'Aran et cherchaient un peu de consolation dans les regards des présents. Nous avons attendu des heures sur ce banc de bois limé, sous les portraits du premier et du second guide de la Révolution. Et toutes les 10 minutes, Sarah se levait pour aller au guichet, répétait toujours la même question et le même argument. « Boya demshab belavam, il me faut partir ce soir, il me faut partir ce soir. » Et chaque fois, le fonctionnaire lui répondait « Demain, demain, vous partirez demain. » Et dans l'égoïsme de la passion, j'avais l'espoir qu'effectivement elle ne parte que le lendemain, que je puisse passer une soirée, une nuit de plus avec elle, la consoler, imaginais-je, la catastrophe que nous ne faisions qu'entrevoir, et le plus atroce, dans cette antichambre déglinguée, sous le regard courroucé de Khomeini et les grosses lunettes de myope de Khamenei, était que je ne pouvais pas la prendre dans mes bras. Pas même lui tenir la main, ni essuyer les larmes de rage, d'angoisse et d'impuissance sur son visage, craignant que cette marque d'indécence et d'offense à la morale islamique ne diminue encore un peu plus ses chances d'obtenir son visa de sortie. Finalement, alors que tout espoir de décrocher le coup de tampon magique semblait perdu, un officier, la cinquantaine, courte barbe grise, un ventre plutôt débonnaire dans une veste d'uniforme impeccable, est passé devant nous pour rejoindre son bureau. Ce bon père de famille a écouté l'histoire de Sarah, l'a prise en pitié et, avec cette grandeur magnanime qui n'appartient qu'aux puissantes dictatures, après avoir paraphé un obscur document, il a appelé son subordonné pour lui enjoindre de bien vouloir apposer sur le passeport de la ci-devant le sceau théoriquement inaccessible. Lequel subordonné, le même fonctionnaire inébranlable qui nous avait envoyé paître sans ménagement toute la matinée, s'est acquitté d'heure chef de sa tâche, avec un léger sourire d'ironie ou de compassion, et Sarah s'est envolée vers Paris. Si majeur, l'aube qui met fin à la scène d'amour, la mort. Est-ce que le chant de la nuit de Chimanowski qui relie si bien les vers de Rumi le mystique à la longue nuit de Tristan et Isolde passe par le si majeur? Je ne m'en souviens pas. C'est probable. Une des plus sublimes compositions symphoniques du siècle dernier, sans aucun doute. La nuit de l'Orient. L'Orient de la nuit. La mort et la séparation. Avec ses cœurs brillants comme des amas d'étoiles. Chimanowski a aussi mis en musique des poèmes de Hafez. 2 cycles de chansons composées à Vienne, peu avant la Première Guerre mondiale. Hafez. On a l'impression que le monde tourne autour de son mystère comme l'oiseau de feu mystique autour de la montagne. Hafez, chut. Personne ne connaît les mystères divins. Tais-toi. À qui vas-tu demander ce qu'il est advenu du cycle des jours? Autour de son mystère et de ses traducteurs, depuis Hammerpurkstall jusqu'à Hans Bethge, dont les adaptations de poésie orientale seront si souvent mises en musique. Chimanowski, Mahler, Schönberg ou Victor Ullmann, tous utiliseront les versions de Bethge. Bethge, voyageur presque immobile, qui ne savait ni l'arabe, ni le persan, ni le chinois. L'original,